la victoire, ou alors les belles histoires, elles se font pas uniquement avec ce qui se passe en mer, mais avec ce qui se passe aussi à terre, et donc ça va être un élément important. Ouais.
Bonjour à tous et bienvenue dans La Voix Rousse, le podcast de Benjamin Dutreux. Cet été, nous sommes de retour pour vous faire revivre The Ocean Race à travers 5 podcasts. Tous les samedis, découvrez un nouvel épisode. Dans cet épisode, nous allons revenir sur le stopover de l'Afrique du Sud. Un stopover de plus d'un mois et demi qui, vous allez le voir, a duré beaucoup plus longtemps que prévu. À cette occasion, La Voix Rousse a rencontré Jacques Guyader, journaliste à Ouest France, qui couvre The Ocean Race et qui suit l'équipe Guy Environnement Team Europe. L'entretien s'est déroulé quelques jours avant le départ de la plus longue étape de The Ocean Race. Alors bonjour Jacques. Comment tu vas?
Ben, je vais bien ma foi. Comment on peut pas aller bien hein, quand on vient sur un lieu aussi sympa, que aussi agréable que le port de Cape Town, et puis dans cet endroit un peu magique où on est en été. Donc quand on quitte un peu quelques jours la Bretagne en hiver pour venir en été ailleurs, c'est pas désagréable. Hein. Et puis là aujourd'hui il fait beau, donc c'est ouais. Puis l'ambiance est sympa, donc c'est un bon moment.
C'est ta première fois à Cape Town?
Non, du tout. Je suis venu il y a la dernière Volvo. J'étais venu pour la première fois sur la Volvo pour suivre un peu l'équipe de Dongfeng. J'avais été invité par eux à venir les voir ici. Donc je n'avais pas passé beaucoup de temps, j'avais passé jusque 3 jours. Mais ça m'avait permis déjà d'avoir un aperçu. Puis j'avais pu être en mer pour le départ et l'Inport Race. Donc j'avais vu un magnifique spectacle.
C'est un très beau paysage.
Ouais,
ici,
et puis les 6 bateaux dans la baie, il y avait du vent. Ça a longtemps été mon fond d'écran, ce départ de course. Une photo de Thierry Martinez que j'avais mis en fond d'écran, qui est resté très longtemps mon fond d'écran. Parce qu'avec pour les gens qui ne connaissent pas, l'arrière du Cape Town, il y a 2 belles montagnes. Et quand on est de la mer, on voit la ville et ces montagnes derrière. C'est vrai que c'est un écran magnifique pour faire des courses. Hein.
Est-ce que tu peux un petit peu te présenter et nous expliquer un petit peu ton parcours pour les personnes qui ne te connaissent pas?
Alors, je suis journaliste à Ouest France depuis 1994. Eh oui, déjà. J'ai commencé par ce qu'on appelle la locale, les informations régionales, pendant presque 12 ans. Et puis, donc je suis passé par Quimper, Dinan, et puis je suis allé au Sable d'Olonne. Sable d'Olonne, c'est important dans la marque de parcours parce que, notamment, j'ai connu ma femme. Enfin bon, ça, c'est encore c'est autre chose. Mais surtout, ça a vite marqué mon intérêt. J'aimais déjà beaucoup la voile. Et évidemment, j'étais là-bas en 2000 pour le Vendée Globe 2000. Donc, je ne le couvrais pas pour les sports, mais pour la locale. Et ça a quand même été un peu l'édition qui a fait la bascule du Vendée Globe vers le professionnalisme. Vraiment, okay. C'est l'année où Michel Desjoyeaux gagne, mais où il y a Hélène MacArthur aussi, qui n'est pas loin de gagner. Donc, ça avait eu un gros retentissement, cette édition-là. Et puis, suite à ce passage à la locale des Sables d'Olonne, un jour, les sports m'ont demandé si ça ne t'intéresserait pas de passer au sport, parce que tu aimes le sport. Et, ça. Et puis, j'ai basculé au sport. Et je suis passé à Rennes, au service des sports. Et maintenant, ça va faire depuis 2005. Okay. Donc, voilà. Et au fur et à mesure, je fais beaucoup de football.
Okay.
J'ai fait 11 ans de Ligue 1. C'est-à-dire que je suivais le club du Stade Rennais.
Rien à voir avec la voile.
Non. Alors, j'avais quand même un petit peu d'activité voile tout au long de l'année. Je participais donc au suivi de la route du Rhum puisque j'étais en Ille-et-Vilaine. Je commençais à suivre la solitaire du Figaro parce que j'aimais bien ça. Donc j'ai commencé à faire de la voile en plus du foot. Donc je faisais à peu près 80% de foot et 20% de voile. Okay. Foot un peu du handball aussi, etc. Et puis au fur et à mesure, je suis repassé au siège. Et là, depuis maintenant, on va dire 3-4 ans, j'ai un peu pris la responsabilité de ce qu'on appelle le pôle voile. C'est-à-dire qu'on essaye de structurer un petit pôle de compétences autour de la voile et de la course au large pour essayer de placer Ouest France comme étant un média important dans la couverture de la voile et de la course au large. Donc j'essaye de structurer quelque chose et de lancer des nouveaux projets. Et Ouest France, depuis maintenant 3-4 ans, on en fait de plus en plus sur la voile. On aime
beaucoup
ce sport.
Parce que c'est un média qui est basé plutôt dans les endroits où il y a de la voile, par exemple un média où...
Si nous, on le fait
côté
pas,
est de la France,
ouais,
voilà, c'est pas du tout.
Bien sûr. Okay. Si Ouest France ne s'intéresse pas à la voile, alors qu'on a de toute la presse française, on a le plus grand littoral, hein, puisque Ouest France, ça va du pont de Normandie, c'est-à-dire Honfleur, fait tout le tour de la Normandie, plus la Bretagne, et on descend au Pays de la Loire, jusque la limite de la Vendée
La
et de
Vendée, ok.
la Seine, pas la Seine, de la Charente-Maritime.
Ok.
Donc on a quand même, je sais pas loin d'un quart du littoral français. Et puis surtout, on a sur notre zone, bah, tous les grands
D'accord.
skippers, toutes les grandes équipes, les grandes courses, hein, la Route du Rhum, le Fantaglobe. Donc en gros, si nous on fait pas,
Personne ne le
personne ne
fera,
le fera,
ouais.
quoi.
Ok.
Donc avant, on le faisait de façon un peu épisodique. Puis depuis maintenant 4 ans, on est présent tout au long de l'année. On essaye de suivre toutes les
De
séries,
tout couvrir.
tout couvrir, d'essayer d'être là tout le temps. Comme on suit le football toute l'année, ben on suit la voile toute l'année. Voilà.
Essayer de le démocratiser peut-être un
Ouais,
peu et que
bien
les
sûr.
gens se disent que la voile n'est pas que le Vendée Globe.
Bien sûr, tout à
Ouais,
fait.
c'est ça
On
le.
essaye de faire en sorte que la course au large, qui intéresse de plus en plus de monde, ben, sorte un peu du milieu des quelques
Milieu.
allez, milliers de personnes en France qui sont vraiment accros à ça. C'est un microcosme. Mais on essaye de toucher du grand public.
Ok.
Et puis hors de nos frontières, entre guillemets, puisque avec le journal papier, évidemment, on est sur trois régions, Bretagne, Normandie, Pays de la Loire, mais avec le numérique, le site ouestfrance.fr, on touche
Toute la
toute
France,
la
ouais.
France, et voire plus.
Ok.
Puisque même des Bretons ou des Ligériens ou des Normands expatriés aux États-Unis, ils peuvent suivre. Donc là, on est vraiment sorti de nos limites, quoi. Donc on touche un public beaucoup plus large, beaucoup plus familial aussi. C'est vrai que le Vendée Globe et la Route du Rhum, ce sont des courses qui permettent ce type de démarche, hein, de toucher beaucoup de gens, de toucher des gens qui peut-être ne s'intéressaient même pas à la voile avant, mais qui, pour une raison ou pour une autre, hein, certains parce qu'ils sont passionnés de voile, mais d'autres parce que tout simplement ils trouvent sympa tes
L'aventure
skippers,
humaine,
voilà,
ouais.
ils aiment bien, la mamie, elle aime bien Sam Davis parce qu'elle la trouve sympa, ben, elle suit le Vendée, voilà, et ça nous a ouvert tout un lectorat nouveau et qu'on essaye de continuer à conquérir, à toucher. Donc ça profite donc au milieu de la course au large aussi, puisqu'on est un média important, on est vraiment un gros média quand même maintenant. Donc ça aide, tout le monde s'entraide. Nous, on profite de ce sport qu'on aime bien, et puis ce sport profite de l'exposition qu'on lui donne, quoi.
Ok, donc c'est une vraie relation entre Ouest-France
Ouais,
et la voile
ouais,
qui est
ouais, ouais.
assez
Puis
ancrée.
pour être franc, ça marche tellement bien en termes d'audience qu'on n'a pas trop de difficultés à convaincre
À convaincre, ok.
nos chefs, quoi.
Ouais.
Voilà.
Et du coup, il y a quelques temps, vous avez décidé avec Ouest-France, ou je sais pas, quelle était l'initiative de lancer la rubrique Anticyclone, dans laquelle vous racontez toutes les coulisses de la course au large à
Voilà.
travers des interviews et des témoignages. Qui est quand même, quand on regarde cette rubrique, c'est beaucoup plus intime, je trouve, que des articles plus généraux de voile.
Tout à fait. C'est une idée qu'on a eue à la fin de l'été dernier. Enfin, j'avais un peu ça en tête depuis longtemps, de me dire, mais comment on peut faire plus? Parce qu'il y a l'actualité. Donc ça, l'actualité, on la couvre comme on couvre toute actualité sportive. Mais on s'était dit, comment on peut faire quelque chose de différent? Comment on peut donner plus de temps à certains sujets, plus de longueur, pour être plus près des gens, plus près des acteurs, donc les
Plus
skippers.
d'intensité aussi.
Ouais, puis du temps de lecture et d'aller plus au fond des choses, quoi. Et on s'est dit qu'il fallait qu'on crée quelque chose qui aussi rende quelque part service aux équipes, aux skippers, qui ont besoin aussi d'avoir, pouvoir dire, ben oui, ben vous avez vu, on a parlé de nous dans tel sujet, c'est un sujet long, où on explique bien ce qu'on fait, où on raconte bien nos histoires. Je pense que c'est le récit qui fait l'intérêt de la course au large. Le récit, le témoignage, toutes ces choses-là. Alors, on a ciblé un peu ça. Et on s'est dit, ben, on va lancer une rubrique qu'on appelle nous une verticale, parce que c'est vraiment une déclinaison de toute la rubrique voile, quoi, qui
Ok.
s'appelle Anticyclone. Et là-dedans, on s'est donné un fil rouge qui est le récit et la coulisse, entre guillemets. En tout cas, essayer d'être plus près des acteurs, que
Ok.
ce soit les marins, les organisateurs de courses, les fabricants de bateaux, les classes, enfin.
Les équipes aussi.
Les équipes et prendre le temps avec eux et ben d'aller un peu plus loin. Donc c'est parfois le journalisme sportif, c'est un peu du speed dating. Quand on fait du foot, bon, pas de méchant avec du footballeur, mais on a des fois 2 minutes à la sortie d'un match et puis
Ouais.
bof, c'est fini. Mais là, ça a été bien accueilli en plus, cette initiative. Alors on n'a pas encore tout à fait trouvé notre vitesse de croisière,
Ok.
hein. On alimente Anticyclone. On va peut-être parler après de Guyot, c'est justement un peu le premier gros chantier, c'est avec
Ouais.
Guyot. Mais on n'a pas trop de soucis à dire à un skipper ou à quelqu'un, est-ce qu'on peut avoir 2 heures de ton temps pour creuser un sujet ou pour que tu nous racontes quelque chose en longueur avec l'autre? C'est rare pour nous, c'est un vrai bonheur de pouvoir avoir ça.
Et les skippers sont des personnalités dans le sport qui acceptent et d'autres moins ou...
Moi, je trouve qu'ils sont quand même vachement disponibles.
Disponibles, ouais.
Et tant mieux pour nous. Et peut-être qu'ils ont aussi besoin. Donc, chacun y trouve son intérêt. Puis, je pense qu'ils aiment aussi raconter. Enfin, que ce soit un skipper ou un organisateur de course ou même quelqu'un qui, dans un team, travaille un peu dans l'ombre, est content de raconter ce qu'il fait et de nous raconter comment il vit telle chose. Et il nous donne le temps. Et c'est formidable dans le journalisme d'avoir du temps pour faire les choses. Dans une époque où c'est plutôt le contraire, quoi. Ouais. On va vite, il faut aller vite tout le temps, vite, sortir le truc le premier. Là, c'est un peu le contraire.
On essaye de prendre
c'est
le temps.
L'éloge de la longueur et de la lenteur.
Ok.
Voilà.
Ce qui est un angle intéressant.
Ouais.
Et il y a aussi, du coup, cette volonté de rendre vraiment ce sport accessible au grand public en racontant des histoires humaines. Et aussi d'avoir cet angle humain plus que dans des articles assez rapides qui décrivent des faits de course.
Oui, tout à fait. Ouais. On peut accrocher une partie de nos lecteurs et internautes par la technique, par la compétition pure. Hein. Il y en a qui adorent ça. Ils veulent qu'on leur raconte pourquoi sur tel bord, dans telle course, ils ont utilisé telle voile et pourquoi ils sont partis traverser le poteau noir au 28e et pas au 29e. Bon, il y en a, mais on ne peut pas accrocher tout le monde avec ça parce que c'est un peu complexe, c'est un peu technique. Puis, il y a des gens qui préfèrent aussi qu'on raconte des histoires humaines, quoi. Qu'on leur raconte, ils ont passé 18 jours ensemble à 5 dans un 15 mètres carrés, dans un 5 mètres carrés, pardon, 5, ah, pas 15. Et voilà comment ça se passe, quoi. Et voilà comment ça peut être difficile parfois, les relations. Et parfois ça peut exploser, parfois ça peut être de. Ou alors il y a des moments de joie, il y a des moments de bonheur. Enfin, qu'on raconte ça plutôt, c'est humain. C'est la matière humaine qu'on cherche plutôt à travailler dans Anticyclone, quoi.
Mais pas que, il y a aussi ce côté sportif aussi.
Ouais, un peu de sport aussi, mais on essaie de se détacher vraiment du moment de la compétition quand même.
Ok.
Mais par contre, on va aussi aborder peut-être des sujets économiques, choses comme ça. Parce qu'on parle pas beaucoup dans le sport des volets économiques. Mais combien ça coûte d'organiser telle course? Là, en ce moment, on a un sujet sur Anticyclone, qui touche un peu à l'économie de l'OCNRS. Combien ça coûte d'organiser une étape? Combien de personnes sont là pour l'organiser, etc. C'est un peu aussi des sujets qu'on ne s'attend pas forcément à trouver. La logistique, de surprendre un peu, puis d'aller là où on ne nous attend pas forcément, quoi.
Et quelle est la place plus généralement de la voile? On en a un peu parlé, mais dans le paysage sportif français, par exemple, le foot prend énormément de place.
Le foot écrase tout.
Y a des sports auxquels on n'entend quasiment jamais parler. Enfin, je pense par exemple au patinage artistique ou des disciplines qui sont très, très peu.
Patinage artistique, on en parle au moment des Jeux Olympiques.
Voilà, c'est ça.
D'hiver. C'est voilà. Et puis peut-être quand il y a un couple français qui est champion du monde. Voilà.
Mais s'il n'y a pas de champion du monde, par exemple, on n'en parle pas forcément.
Ouais.
Et avec la voile, il n'y a pas non plus cette notion vraiment de champion du monde. C'est pas vraiment. Dans le classement IMOCA, c'est pas ce qui ressort.
Non, du tout. C'est pas...
Donc il y a quand même. Mais ça reste quand même un groupe restant de 30-40 skippers dans la course, enfin en tout cas dans les IMOCA. Donc c'est pas 56 000 personnes. Donc quelle est la place vraiment de ces personnages, de ces skippers et de la voile dans le paysage sportif français?
Si je regarde avec mon regard de journaliste à Ouest France, évidemment la place est importante.
Okay.
Si je me mets à la place d'un journaliste, un confrère journaliste de La Voix du Nord, c'est déjà un peu moins important. Et si je me mets à la place peut-être d'un collègue journaliste de Savoie, c'est insignifiant. Donc évidemment, il y a un tropisme de l'Ouest dans la course au large et dans la voile en général. Donc vu de chez nous, ils ont une place importante. Je ne pense pas encore, même si vraiment, il faut toujours ramener ça, mais le Vendée Globe a ouvert quand même la course au large.
Et le dernier Vendée Globe au 2 ans.
En plus, encore plus. Mais à chaque édition, j'ai l'impression. Et je pense que dans le cœur des Français, il commence à y avoir des champions dans la voile. Des champions. Je pense qu'à François Gabart, est un peu connu en France même. Enfin, Armel Lecléache est connu en France. Il y en a quelques-uns comme ça. Michel Desjoyeaux, à un moment. Enfin,
Jean Le Cam.
Jean Le Cam, oui. Parce que justement, mais Jean Le Cam, il n'a pas touché les gens par ses performances. Il a touché les gens par son personnage. Par d'abord aussi l'histoire avec Kevin. Mais même avant ça, c'est quelqu'un qui parle librement, qui dit des choses, qui a une trogne en plus. Voilà, il y a quelques-uns comme ça. Puis après, c'est vrai que beaucoup de skippers en dessous, après, enfin, en dessous, à côté, sont pas très connus en dehors de, bah, parfois en dehors de la Bretagne ou en dehors de l'Ouest, hein. Faut pas non plus leurrer. La course au large, je pense, trouve un auditoire qui grandit, mais c'est pas encore.
C'est pas encore, bien sûr.
Mais bon, à Ouest France, c'est quand même le troisième sport, hein. Bon, le foot, hein, écrase tout, on est d'accord. Après, le cyclisme.
Oui.
Bon, le cyclisme, c'est un sport très populaire en France et beaucoup dans l'Ouest. Parce qu'on a beaucoup d'équipes dans l'Ouest. Enfin, puis, enfin, la Bretagne, c'est une terre de vélo
Puis
aussi.
le Tour de France est.
Ouais, puis c'est une terre de vélo, hein.
Ouais.
Il y a plein de courses tout le temps, tout l'été, il y a des courses partout. Donc le cyclisme. Après, chez nous, à Ouest-France, la voile doit être le troisième sport maintenant.
OK.
Troisième ou. Oui, quatrième sport. Par l'audience, je pense. Ouais.
Ah
Il y
oui, donc c'est quand
a.
même important.
Ben,
Ouais.
ouais, de plus en plus, ouais. Et parce qu'il y a des grands événements qui jalonnent maintenant tous les ans. Hein. La Route du Rhum, c'est peut-être tous les 4 ans, mais quand il n'y a pas de Route du Rhum, il y a un
Une
Vendée
fois.
Globe, ou maintenant il y a des Transats, il y a la Solitaire du Figaro, il y a toujours quelque chose, quoi. Du coup, ça commence à rentrer un peu dans. Aussi, on fait beaucoup d'efforts, puis il y a nos collègues du Télégramme, hein, on peut les citer, nos amis du Télégramme, ils sont là, eux aussi font ça. Donc il y a Ouest France et le Télégramme, c'est déjà deux gros médias, enfin, deux médias qui parlent de ce sport. Donc ce sport prend sa place. On espère que ce qu'on est qu'au début, on espère bien donc, que toute la France suive les bateaux.
Oui.
Mais.
Parce que c'est un sport qui fait rêver aussi, enfin qui a une dimension un peu surhumaine
Ouais.
et qui fait rêver.
Alors est-ce que ça fait rêver? Ça, c'est un vieux débat. J'en suis pas
Bah, c'est
certain.
un peu
Ça impressionne plutôt.
impressionnant. Oui,
Ouais.
c'est peut-être pas ça, mais c'est
Je suis pas sûr que
impressionnant.
les gens ils rêvent de faire.
Ils rêvent pas de faire, mais ils voyagent. Il y a
Parce que si on
cette
leur
notion de
montre
voyage.
l'intérieur d'un bateau et on leur dit vous avez passé 30 jours là-dedans, ils vont pas
Non,
rêver
mais
à ça, je pense. Par
il y
contre,
a un
ils vont
truc
être.
de voyage qui est quand même très présent
Ouais.
par rapport aux autres
Ouais,
sports.
ça, disons qu'on les imagine.
Ouais.
Ouais, ça permet à l'imagination de se lâcher et de vagabonder, hein. Même si la course qui, comme je le disais tout à l'heure, est la principale course qui a ouvert, c'est pas une course qui fait voyager tant que ça, hein, le Vendée Globe, parce qu'on part des Sables-d'Olonne, on revient aux
Non, ça
Sables-d'Olonne. Hein.
donne, ouais.
Alors, si, il y a quand même ce périple qu'on imagine dans le Grand Sud, tempête, Cap Horn, etc. Mais on s'arrête pas, quoi. On n'a pas beaucoup d'images de tout ça, finalement. Alors, la route du Rhum, ça part de Saint-Malo, qui est déjà un peu une ville touristique. Ça arrive
En Guadeloupe.
en Guadeloupe, donc c'est les cocotiers, les palmiers, la chaleur, le soleil. Mais en termes de carte postale, de voyage, ben, moi, je trouve que l'océanerait, c'est.
Il faut
Il
vraiment.
faut vraiment s'y intéresser parce que c'est chouette de pouvoir dire qu'une course s'arrête en Afrique du Sud ou au Cap-Vert juste avant, c'est chouette. Au moins on voit quelque chose. Les marins eux-mêmes voient quelque chose. Ils
Exactement.
arrivent dans un port, quoi.
Mais d'ailleurs, cette course de The Ocean Race, qu'est-ce qu'elle représente, elle, quant à elle, dans le monde de la course au large? Elle est pas très, on sait qu'elle n'est pas très très connue en France,
Non.
mais dans le monde, c'est un peu plus connu.
Hmm.
Donc, c'est souvent aussi un rêve pour pas mal de skippers de faire cette course. Qui est quand même impressionnant, ces 6 mois de course, c'est immense, hein, c'est énorme. Donc qu'est-ce qu'elle représente vraiment dans le monde de la course au large, cette course? Est-ce que c'est la chose ultime ou pas forcément?
C'est peut-être pas. Ouais, en France, ça reste un degré en notoriété en dessous de la Route du Rhum, du Vendée Globe, de la Transat Jacques Vabre, enfin des grandes courses. Parce que pendant longtemps, il n'y avait pas tellement d'étapes en France, il n'y avait pas beaucoup de vainqueurs français pendant longtemps. Alors ça a changé les
Changer.
dernières années. Je pense que la victoire de Franck Hamas, déjà, il y a 2 éditions, avec une étape à Lorient en plus. Donc ça avait déjà un peu ouvert les yeux de beaucoup de Français qui s'intéressent à la course là, sur cette course-là. La victoire de Charles Caudrelier la dernière fois aussi, même si c'était un sponsor chinois, mais quand même, il n'y avait quasiment que des Français à bord. Hein, mais ce n'est pas très connu, en effet. Pour moi, quand même, si je suis honnête, ben, c'est quand même la plus grande course du monde. Hein. Alors, il n'y a que 5 bateaux cette année, mais enfin, il y a eu des années, il y avait 10, 15 bateaux, plus que ça même. Et il y en aura, j'espère, plus la prochaine fois, parce que cette course est en train
De se reprendre
de se
aussi,
reprendre, de
ouais.
renaître, de trouver une autre façon de fonctionner avec d'autres bateaux. Mais enfin, c'est une course extraordinaire. Puis le bateau a plus en équipage, c'est chouette. Le bateau avec des escales, c'est chouette. Le bateau dans ce niveau de performance, parce que là, sur tous les bateaux, il y a des cadors, hein, c'est le gratin. Hein. Alors, c'est un peu encore franco-français cette fois-ci.
Oui, c'est vrai, il y a beaucoup de Français.
Alors que c'était plutôt une course très étrangère
très
par le passé.
Anglaise, ouais.
Avec les meilleurs skippers australiens, néo-z, sud-africains, brésiliens, mais qui ne sont pas là encore parce que cette course vient de changer de format.
Mmh. Avec les IMOCA.
Avec les IMOCA, ouais. Qui reste quand même encore pour le moment une classe assez franco-française, puisque c'est la classe du Vendée Globe. Mais j'ose espérer, je pense que ce sera le cas, qu'à la prochaine édition, il y aura autant de bateaux français, ou en tout cas franco-français, que de bateaux de l'hémisphère sud, on va dire. Parce que les grandes nations de voile, c'est la Nouvelle-Zélande, c'est l'Australie, c'est tous ces pays-là. Et je pense qu'ils viendront.
Okay.
Et quand ils viendront, là on aura
un spectacle.
Une vraie course de dimension mondiale. Quoi. Ce qui est le cas de la Whitbread, c'était la Whitbread avant. Enfin, c'est pour un jeune marin, où, ouais, ils en rêvent. Ben oui, ils en rêvent. Ouais. Ben, oui, arriver dans la baie du Cap en régate, enfin, c'est un truc qui n'a pas de prix, quoi. En vainqueur ou pas en vainqueur. Hein. C'est... Ou après, faire le Cap Horn dans l'équipage, ou arriver au Brésil, puis après à Newport. Enfin, c'est tous les plus beaux endroits du monde pour la voile. C'est chouette,
c'est
quand même.
C'est ici, ouais. Donc, c'est en France, c'est pas trop médiatiquement suivi, quand même. Un peu moins que la Route du Rhum, par exemple, qui est un gros événement, ou le Vendée Globe.
Hein. Ouais.
Et du coup, on explique ça comment? Parce que c'était pas très connu avant en France. Comment vous arrivez à expliquer pourquoi en France, ce n'est pas autant suivi, alors que c'est une immense course et qu'il y a beaucoup de Français qui la font, là, en plus, aujourd'hui.
Ben, parce que peut-être qu'à un moment, il y a eu le virage, là, entre la Volvo qui devient au CNRS avec le passage à l'IMOCA. Ça a peut-être été un petit peu compliqué à comprendre pour le grand public qui n'est pas hyper dessus.
C'est rapide, peut-être, ce changement a été...
Ouais, ça a été... Et en même temps, il y a eu le Covid qui a repoussé l'épreuve. Enfin, peut-être qu'il y a eu un petit problème de lisibilité pour comprendre comment ça marchait. Je pense que cette fois-ci, il y a aussi le problème qu'il n'y a que 5 bateaux. Et que peut-être que 5 bateaux, c'est la taille critique. Il ne fallait pas que ce soit en dessous. Ça aurait été...
C'est vrai que ça a été très... À un moment donné, on se demandait même si ça allait partir, parce qu'il n'y avait que 3
On ne fait pas une course de ce
niveau-là. Ou 4 bateaux.
Avec 3 bateaux. Donc on espère, on croise les doigts qu'ils iront tous jusqu'au bout et qu'on aura une belle bagarre jusqu'au bout.
Oui, sinon, il n'y a pas trop de compétition. Quoi.
Mais il y aurait 5 ou 6 autres bateaux de plus. Je pense que cette course aurait eu un peu plus d'audience.
Ok.
Après, c'est difficile d'expliquer pourquoi. Hein. Elle part pas de France déjà.
Oui, il n'y a pas d'étape en France non plus.
Non, puis elle part pas. Enfin, et puis elle a un nom anglais, c'est nice. Alors je sais pas. Puis après, faut quand même être clair. Les médias qui suivent la voile et la course au large toute l'année, qui en dehors des temps forts que constitue la Route du Rhum ou le Vendée Globe, etc. Bah, il y a Ouest France. Il y a nos copains du Telegram qui suivent aussi. Et après, il y a quelques médias nationaux qui viennent de temps en temps. Mais il n'y a pas beaucoup de médias qui suivent la voile. Hein. Donc, il faut le dire. Hein. Donc, ce n'est pas facile de vendre, entre guillemets, une course comme ça. Peut-être à, je ne sais pas, je ne parle pas pour eux, mais à Radio France ou au Figaro ou à des médias... Ce qui manque peut-être, c'est des télévisions, quoi. Des images télé. Quoi. La voile est un sport très.
Puis là, c'est via Eurosport qui est payant aussi.
Ouais,
donc,
qui
c'est
payant
assez.
Aussi, ouais.
Ça réduit. D'habitude, ce qu'on disait avec Alice, c'est que c'est diffusé sur France 2, sur France Télé, les départs. Là, c'est Eurosport et c'est payant, quoi. Ou c'est sur Internet.
Ou c'est sur Internet.
Donc ça demande un effort aussi aux personnes qui veulent suivre.
Tout à fait.
C'est assez compliqué.
Après, celui qui veut s'intéresser, il peut trouver quand même beaucoup d'images. Hein, parce que,
oui. Ah oui, par contre, c'est très...
Il y a une production de contenu de la part des équipes, de la part de chaque bateau qui envoie tous les jours des images, des vidéos. Il y a la possibilité de la vivre quand même comme ça. Hein. Mais ça ne figure pas, effectivement, à part à Ouest France et au Telegram. Enfin, ça ne figure pas dans les pages, dans l'équipe, qui est le grand journal français de sport. Il n'y a pas une ligne sur cette course-là. Hein. Bon, en règle générale, je ne veux pas être méchant avec eux, mais il n'y a pas beaucoup de voiles non plus. Hein, c'est un journal de foot, l'équipe. C'est de sport, d'athlétisme, enfin, sport olympique, mais à part ça, la voile, c'est de pire en pire. Enfin,
il y a
de moins
beaucoup.
En moins. Quoi.
Ouais. Ouais. Vous avez décidé, donc, sur cette rubrique, de partager l'histoire de Benjamin. Pourquoi pourquoi Benjamin et pourquoi cette équipe et plutôt pas une autre et pourquoi vous avez décidé
Vous voulez qu'on change
Non, c'est très bien. Non, mais il y avait quand même 5 équipes avec des skippers français.
En fait, c'est le projet d'Anticyclone de suivre. On essayait de trouver, quand on a lancé cette rubrique, on essayait de lancer notre effort avec un suivi un peu. Bah, il fallait qu'on trouve quelque chose d'emblématique sur un feuilleton qui nous permette vraiment de faire démarrer la série. Donc on s'est dit, bah, ce serait bien de profiter peut-être de l'Ocean Race pour suivre l'épopée de quelqu'un. Un peu par hasard, chez nous, à Ouest-France, il y a un des dirigeants du journal qui a rencontré quelqu'un qui s'occupait un peu de la com de chez vous, de Guyon. Et puis, en parlant du projet Anticyclone, nous, ça nous intéresse, etc. Et on s'est dit, si eux, ça les intéresse et ils sont d'accord, on va suivre. Mmh. Et puis, on s'est dit que c'était une histoire sympa d'avoir un équipage avec des Français, des Allemands, des Anglais, enfin un peu international, avec quelqu'un qui est quand même de notre zone, puisque Benjamin est vendéen. Le bateau, le sponsor, Guyot Environnement, c'est basé à Brest, donc enfin il y avait ça cochait plein de cases pour qu'on soit en phase, quoi. Okay. Et puis quand on en a parlé avec Benjamin et puis son entourage, on leur a dit, nous on aimerait bien faire ça, est-ce que vous êtes prêts un peu aussi à nous ouvrir un peu les portes, à nous
donner un peu d'exclusivité.
Oui, et puis surtout permettre de vous approcher plus près pour qu'on fasse justement ce qu'on souhaite faire. Ça les a ravis, et ils ont bien joué le jeu. Alors on est ravis de faire ça. Donc, et puis c'est une super aventure. Enfin, aller à suivre toute cette équipe de près avec des personnalités fortes, des parcours originaux, on s'éclate à suivre ça. C'est chouette.
Est-ce que, Benjamin, tu le connaissais d'avant, du premier Vendée Globe, ou même d'avant, tu voyais qui c'était? Et est-ce que tu avais déjà un petit
c'est peu... C'est pas le skipper que je connaissais le mieux. Je l'avais rencontré sur la solitaire du Figaro. Sur le Vendée Globe, évidemment, qu'on l'avait suivi. Pas forcément moi, c'était pas un de ceux que j'avais suivi le plus. Non, je dois avouer que je connaissais pas beaucoup Benjamin.
Ok.
Ouais. Je suivais, évidemment, ses pairs. Enfin, il a fait un Vendée Globe extraordinaire, hein. Je me suis dit, purée, je savais qu'il était bon régatier. Enfin, de là, avec un bateau comme ça, faire son Vendée Globe, quand même, il est dans le top 5 pendant un moment, c'est incroyable. Mais je ne connaissais pas la personne.
Ok.
Voilà. Je ne connaissais pas la personne. Il ne me connaissait pas beaucoup non plus, je pense. Du coup, on a appris à se connaître aussi, à prendre rendez-vous, à se parler, à s'interviewer. Enfin, non, je ne le connaissais pas et je ne regrette pas parce que c'est vraiment une personnalité attachante. Ouais.
Il est un petit peu atypique quand même.
Oui.
Enfin, dans le paysage des skippers, c'est quand même un skipper atypique. Son parcours aussi, il est un petit peu. Il a commencé avec un petit budget sur un petit Vendée Globe où il a fait une performance où il est arrivé 9e. Je pense que Benjamin, moi je le vois un peu comme quelqu'un qui n'aime pas faire comme les autres.
Oui.
Est-ce que c'est quelque chose qui te parle quand on parle de Benjamin?
Oui, c'est vrai. Je pense qu'il prend un malin plaisir justement à pas suivre les modes, les meutes et les façons de faire. Et j'ai l'impression que quand il a une problématique, il essaye de trouver la façon la plus efficace et la plus humaine de résoudre sa situation. Et qu'effectivement, il n'essaye pas de faire comme les autres. Déjà, rester en Vendée, quand on a un projet de ce niveau-là, c'est pour faire comme les autres, parce que peut-être 80%, pas loin, sont quand même basés en Bretagne Sud. Bon, il y a Louis Barton qui est aussi dans son coin à Saint-Malo, mais ça reste la Bretagne. Au Salle, il y a Benjamin, et puis il y a Arnaud Boissier, et puis Manu Cousin. Enfin, déjà, ça fait 3 bateaux, là. Ça commence à être un petit pôle. Et puis on voit bien aussi dans sa façon de préparer ses projets, de s'entourer. Enfin, toute cette équipe, c'est une équipe jeune, pas très expérimentée. Enfin, c'est pas forcément ce qu'auraient fait les autres. Hein. Ils seraient peut-être allés chercher des cadors ou des gens super performants. Non, il n'a pas choisi cette voie-là. Il n'a pas choisi la voie la plus facile. Il se démarque aussi par sa personnalité. Il est pas... Après, la personnalité, il y en a d'autres. Hein. Il y a aussi d'autres skippers qui ont des personnalités très, très fortes. Moi, je n'avais pas à cerner ce côté quand même aussi peut-être un peu impulsif parfois et un peu je l'avais pas cerné avant, je voyais pas ça comme ça, mais son côté rentre dedans un peu, puis cache, quoi. Mm. Quand il a quelque chose à dire, il dit, quoi. Voilà. Parce qu'au départ aussi, alors on s'est vu la première fois réellement à Noël. À Noël, il se trouve que j'ai habité au Sable d'Olonne longtemps, donc j'ai une partie de la famille de ma femme qui est là-bas. Donc j'ai passé le Noël dernier au Sable d'Olonne. Donc je lui ai dit, bah, c'est peut-être le moment, tiens, puisque Benjamin est là, qu'on se rencontre et puis qu'on démarre un peu le début de l'histoire. Donc je suis allé prendre un café chez lui, on a discuté longtemps, et puis on a surtout discuté de la façon dont on allait procéder, quoi. Qu'est-ce qu'on se met comme borne, qu'est-ce qu'on se met comme limite dans le suivi, et donc on s'est dit, bah, peut-être on se dit tout ou presque, et on verra après ce qu'on publie ou ce qu'on, s'il y a des choses que, okay. qu'il faut qu'on retienne.
Donc il y a eu un cadre qui a été posé.
Peut-être qu'à ce moment-là, on s'est dit, donc peut-être que les rendez-vous suivants, il est allé spontanément aux limites du cadre qu'on s'est fixé.
Comment tu les construis, ces articles avec Benjamin? Tu l'appelles, donc c'est assez spontané quand même. C'est vraiment une discussion
si
que vous
peux,
avez.
Si je peux, j'essaye de le voir. Hein. C'est pour ça aussi que je viens sur les étapes de l'OCNRS. C'est quand même mieux en réel ou des visus que par téléphone. Hein. J'ai pas pu faire autrement pour l'étape du Cap Vert quand il est arrivé parce que j'étais pas au Cap Vert, mais autrement, je pense qu'en tête à tête, c'est quand même plus facile. Après, j'ai essayé, moi, au début, on a dit qu'on faisait ce suivi et cette histoire qui normalement finira par, on peut le dire, peut-être un livre sur l'épopée des six bois, sur cette aventure-là. Et ben, j'ai essayé de scénariser un petit peu, quoi.
Okay.
Alors, il y a un scénario assez naturel qui est celui des étapes. Avant une étape, après une étape, de raconter avant, de raconter après. Et puis après, il y a des thématiques aussi. Puis il ne faut pas toujours faire peut-être parler Benjamin surtout. La dernière fois, pour le dernier épisode d'Anticyclone consacré à Guyon Environnement, c'est plutôt avec Sébastien Simon, puisque c'est lui qui était un peu à bord, pas un peu, c'est lui qui était à bord et qui faisait la nave sur l'étape 2, qui en plus était hyper intéressante niveau stratégie, niveau tactique. Peut-être dans le prochain, j'avais envie de connaître un peu mieux Charles Drapeau, le médiaman du bord, parce que je me suis posé aussi la question de comment un médiaman qui va faire tout le tour, là, qui n'a pas une grande expérience forcément du large, il vit ça, comment il arrive à faire son boulot de médiaman dans un bateau qui marche à 30 nœuds, qui tape dans les vagues, où il n'y a pas réellement de place pour lui.
Ouais.
Donc, dans l'aventure, j'ai choisi aussi faire un angle sur les gens d'à côté, quoi. Donc, on va essayer de scénariser comme ça.
Et scénarisé bien à l'avance,
tu
as commencé avec une base ou des grands thèmes et...
Au départ, je me disais qu'on ne pouvait pas bien commencer à raconter cette aventure si on ne prenait pas un peu la genèse du projet. Comment un jour on décide de faire cette course et comment on arrive à convaincre son sponsor qui est brestois d'aller faire le tour du monde à ses couleurs, ce qui a priori n'est pas sa cible. Donc on a raconté ça, les difficultés de monter l'équipe, les difficultés de boucler le budget. Et puis on arrive au bout de 3 épisodes, on arrive à Alicante le jour du départ. Et après, on scénarise un petit peu avec ça. Et puis, je trouve qu'il y a tellement d'histoires à raconter autour de cette aventure-là.
Il y a beaucoup d'angles différents.
Plein de choses. Ouais. Parce que les gens, ils ne savent pas encore, mais il y a une cuisinière qui suit l'équipe tout le temps, quoi. Elle s'appelle Belinda. Vous en avez peut-être parlé. Moi, je l'ai rencontrée. Enfin, je trouve ça formidable. Elle fait à manger matin, midi, soir pour toute l'équipe.
Pour
30 personnes. Elle va les suivre tout le temps. Je pense qu'on va s'arrêter sur sa personnalité un jour et raconter qui elle est, quoi. Parce que c'est une personne extrêmement importante dans la vie de l'équipe. C'est elle qui donne le moral avec l'AirPod. Elle sait plein de choses sur tout le monde, par le petit côté de la nourriture. Donc voilà, ça fait partie aussi des angles. Et après, on a aussi un petit peu l'obligation de rester connecté à ce qui se passe quand même dans l'actualité de la course. S'il se passe un gros événement de course, ça devient un épisode parce que, on touche du bois. Et s'il se passe un truc, ça deviendra un épisode. Comment vous l'avez vécu, comment ça s'est passé. Voilà. Donc il y a ça. Il y a la genèse, le scénario des étapes, des côtés transversaux avec les personnages, les portraits, et puis le fil de l'actu qui va peut-être nous conduire. On ne sait pas. Et ça, c'est le principe de l'actualité. On ne sait pas trop où ça nous mène. Ça devrait nous amener à Gênes, en Italie.
J'espère.
Voilà ce qu'on sait.
Non, en tout cas, c'est une rubrique importante de suivre. Tu n'as jamais suivi d'équipe comme ça pendant une saison ou c'est la première fois ou c'est quelque chose que vous avez déjà testé, en tout cas comme...
Non, pas en course comme ça. Alors, en fait, Anticyclone, il s'est né un peu de quelque chose que j'avais lancé avant le Vendée Globe 2000, boum boum, 2020.
Oui, hein, 2020.
Et moi, même avant la Route du Rhum 2018. On avait lancé quelque chose dans le journal du dimanche, donc le dimanche Ouest-France. J'avais proposé ça, c'était pendant un an avant le Vendée Globe, suivre tous les dimanches une page consacrée. On avait choisi 5 skippers.
Ok.
5 à profils différents. Il y avait Jérémy Bayou qui était quand même là pour la victoire, la gagne, etc. Et Clarisse Kremer qui démarrait sa vie dans le monde de l'IMOCA. Pas de parenthèse sur ce qui se passe en ce moment, mais c'était assez étonnant qu'une jeune femme qui n'avait aucune expérience se lance dans une grosse... Enfin, voilà. Il y avait Damien Seguin, qui était quand même le premier handicapé à projeter faire un tour du monde avec cette situation de handicap, parce qu'il n'a qu'une main. Enfin, il est extrêmement brillant par ailleurs. Hein. Voilà, on avait choisi 5 profils, et toutes les semaines, on avait une page. Donc, ces 5 projets-là étaient suivis à tour de rôle. Toutes les 5 semaines, on revenait. Donc, c'était déjà l'idée de suivre sur le long cours.
Le long terme.
Le long terme. Donc, on suivait pas par thématique. Alors, par exemple, la préparation physique de Jérémy Bayou, on était allé passer une matinée entière avec lui et son prof de sport pour montrer, expliquer, raconter comment il se préparait physiquement. Clarisse Kremer, une autre fois, elle travaillait plutôt le mental et la respiration, elle était allée faire une séance de yoga avec elle. Puis une autre fois, il y avait un autre qui préparait sa météo avec un routeur.
Leur quotidien de préparation.
Voilà, de préparation. Okay. Et on avait des thèmes, et on avait égrené ça sur un an. Alors, on n'avait pas tenu 52 épisodes parce qu'il y avait eu le Covid.
Ok.
Puisque c'était juste dedans. Donc, on a été obligé de s'arrêter un peu. On a repris après. Mais du coup, quand on avait rassemblé tout ça, on avait quand même 38 ou 39 épisodes. Donc, 38 ou 39 pages.
Ok.
Qui se mettaient comme ça dans un... Quand on les mettait côte à côte, ça faisait un...
Un livre, ouais.
Une belle histoire, quoi. Enfin, et là, on s'est dit, c'est pas mal. En plus, on a eu bon retour de la part des équipes, de la part de tout le monde. Oh, c'est chouette ce que vous faites, c'est intéressant de suivre ça. De donner de la place aussi. Une page, je sais pas. C'est pas mal déjà.
Ah bah, c'est...
Et c'est là qu'a germé un peu l'idée de faire ce qu'on veut faire maintenant. Voilà. On a inspiré nos copains de prolongation au sein des services des sports qui ont eux-mêmes lancé une verticale. C'est un peu comme ça. Donc, c'est pas la première fois, mais c'est la première fois qu'on fait. Sur une course.
Sur une course entière. Ouais. Parce que c'est une longue course et qu'il y a beaucoup de choses.
Et puis il y a les étapes qui nous permettent
de timer aussi.
De timer et d'être là.
Et d'être là, oui, ce qui est important.
Sur un Vendée Globe, on peut pas les...
Oui, tu peux pas les rouler. C'est plus compliqué.
Il faudrait aller se faire Ellie dropper au capote quand il passe. Mais enfin, ça fait jamais qu'un épisode. Quoi.
Ça serait trop long. Ouais. Ok, pour parler un peu plus sportivement, participer à The Ocean Race, c'est une bonne idée en termes de préparation pour le Vendée Globe. C'est quelque chose qui est plutôt...
C'est la meilleure préparation. Je pense. On saura. On pourra tirer des leçons au prochain Vendée Globe, avec eux. Mm. Enfin, oui. Ce sont ces bateaux-là, il faut naviguer dessus. Donc, ces bateaux de plus en plus techniques, compliqués. Donc, plus on les maîtrise, mieux c'est. Là, on a l'occasion... ils ont l'occasion de les faire marcher peut-être presque le maximum de leur potentiel en équipage. Ils vont aller dans des endroits où ceux qui feront le Vendée Globe vont retourner. Parce que sur certains bateaux, je pense juste aux copains de Biotherme, il y en a 3 qui seront sur le prochain Vendée Globe quand même. 3 sur le même bateau là.
Hein. Non, mais oui, c'est...
Donc eux, ils sont très intéressés par faire une étape dans le sud et de se refamiliariser avec l'océan Indien, l'océan Pacifique, cette
et
météo du Grand
aussi.
Sud. Ouais. Même s'ils l'ont déjà fait pour la plupart, c'est la meilleure préparation, c'est sûr. C'est sûr.
Même en termes de timing, est-ce que c'est quelque chose... Il y a quand même eu la Route du Rhum.
Ouais, ça
s'est enchaîné très rapidement. Mm-hmm. Puis il ne faut pas casser, surtout avant le Vendée Globe. Enfin, c'est un risque aussi.
Il y a un risque.
C'est une bonne préparation, mais c'est aussi un risque d'être fatigué, d'enchaîner et de casser son bateau.
Il y a des risques pour tout, en fait. Mais c'est vrai que ça peut paraître un peu risqué. Je sais bien que, oui, on a beaucoup parlé avec Benjamin, ça a été quand même un rush, un timing très tendu de monter le projet, partir faire la Route du Rhum, reconvoyer le bateau, revenir là, repartir sur un tour du monde avec une logistique de dingue pour être partout. Enfin, ouais, c'est tendu. C'est tendu, mais l'apprentissage, il est pour Benjamin, mais il est aussi pour toute l'équipe. Hein. comme disait Benjamin, quand on va préparer le Vendée Globe, l'équipe, elle va trouver que c'est de la rigolade, hein, à côté. Hein. Parce que la logistique, les gens ne le savent pas, mais il y a un conteneur qui est toujours à un endroit, puis il y en a un autre qui prend la relais pour aller à l'endroit suivant. Il faut tout dédoubler. Enfin, c'est un truc de fou. Et ça demande une organisation hyper millimétrée. Alors, je crois bien que tout le monde est un peu dans le rouge, dans toutes les équipes, parce que c'est compliqué de faire ça. Mais c'est, dans le cadre d'une préparation pour le Vendée Globe, c'est une super préparation pour tout le monde, je pense.
Ok.
Je pense.
Donc, c'est une bonne solution.
Je pense que ceux qui ne sont pas là regretteront.
Merci beaucoup, Jacques.
Voilà.
Pour ce podcast.
Ouais. Et puis, bonne chance à Guillaume. Hein. Bonne chance à Benjamin.
Après cet entretien, toute la flotte de The Ocean Race a pris le départ de cette troisième étape. Dans le bateau noir et vert, les jours suivants, un bruit a retenti. D'un seul coup, Annie a vu le sol qui bougeait et Charles a entendu deux craquements. Le fond de coque côté bâbord bougeait anormalement. C'est alors que l'on a découvert qu'une partie de la coque était délaminée. Suite à ce constat, nous avons pris la difficile décision avec l'équipe technique de faire demi-tour et de rejoindre Cape Town. À terre, toute l'équipe s'est rapidement mobilisée pour organiser ce retour à terre et réparer l'Imoca dans les meilleurs délais. Pendant 10 jours, montre en main, l'équipe a réparé le bateau pour qu'il puisse arriver au Brésil. Dans les temps, il a fallu bien évidemment ressortir les conteneurs, le matériel et remettre le bateau à l'eau. Ceci fut la première preuve de résilience de toute l'équipe à terre. J'espère que ce deuxième épisode de La Voix Rousse sur The Ocean Race vous aura plu et je vous donne rendez-vous samedi prochain, direction le Brésil.